La France bouge, c'est jusqu'à 14h avec vous Raphaël Duchemin et c'est l'heure de découvrir la solution d'Elisabeth Assayag.
Oui, vous avez peut-être des problèmes de peau ou vous sortez de lourds traitements après cancer par exemple. Eh bien, il existe Elisabeth une solution, ça s'appelle Cenovi et ça a été fondé par quatre femmes.
Et l'une des fondatrices est alors atteinte d'un cancer du sein. La lourdeur de la chimiothérapie ainsi que de la radiothérapie ne lui permettent pas de s'habiller exactement comme elle le souhaite, avec les matières qu'elle aime. Seules les matières nobles comme la soie ou le coton sont supportables. Et elle s'aperçoit que les textiles synthétiques sont absolument partout dans tous nos vêtements. Ainsi est née Cenovi, des vêtements doux qui conviennent aux peaux les plus sensibles, après avec de l'eczéma, du psoriasis, mais aussi après les lourds traitements de chimiothérapie. C'est made in France et c'est éco-responsable. Bonjour Françoise Escourou.
Bonjour et merci de me recevoir.
Merci à vous d'être avec nous. Vous êtes l'une des cofondatrices de Cenovi, donc... Finalement, l'histoire de Cenovi, elle est comme dans plein de jolies histoires d'entrepreneuriat, elle est née d'un besoin.
Exactement, c'est une tranche de vie, c'est l'histoire de Marie-Pierre. Marie-Pierre a eu un cancer du sein et, comme vous l'avez souligné, dans l'impossibilité de s'habiller comme elle voudrait, oui, c'est-à-dire pour être bien.
Oui, on ne le dit pas souvent, on parle des traitements, on parle des effets secondaires, mais on ne parle pas de cet effet secondaire de la peau, où il faut quelque chose de doux sur la peau.
Exactement, exactement. Et c'était donc le cahier des charges. Quand Marie-Pierre n'a pas pu s'habiller, elle a cherché, elle a fouillé partout, les vêtements, les pantalons, les robes, rien n'allait. Il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas en fait. Donc il fallait le créer, puisque ça n'existait pas totalement. D'où la naissance de Cenovi. Et pour que ça convienne aux femmes, on a essayé, parce que c'était plus pratique pour elles, de créer un site internet www.cenovi.fr pour qu'elles puissent acheter et avoir ses vêtements plus aisément. Donc, on a travaillé, comme vous l'avez souligné, en Made in France, j'allais presque dire en Made in Tarn.
Ah, encore
voilà.
Encore mieux.
C'est encore plus ciblé. Bon, nous sommes Toulousains, comme vous l'entendez peut-être à mon accent. Donc, qui dit Toulousain dit la proximité du Tarn, qui est un berceau du textile. Mm-hmm. Donc, le Tarn étant ce berceau du textile, nous nous sommes tout naturellement retournés vers le Tarn pour chercher nos matières premières, du coton, coton écotex, coton bio, de la soie. L'objectif, bien-être, confort, douceur.
Et joli, faut le dire.
Et joli.
Parce que là, si vous êtes sur Europe1.fr, on voit quelques modèles.
Oui.
Vous faites des robes, des t-shirts, des foulards, des hauts, tout
exactement.
Ça est très étudié. Comment se passe le processus de fabrication?
Alors, vous avez souligné tout à l'heure que nous étions quatre femmes. En fait, nous sommes deux femmes et deux hommes.
Ah, pardon.
Donc, je mets les pendules à l'heure pour Régis et Frédéric,
oui,
qui ont dû se sentir femmes un petit peu entre-temps.
C'est bien, ils vont voir ce que ça fait.
On a développé leur côté féminin.
Mais ils nous ont quand même aidé à développer, puisque Régis est notre créateur. Et Marie-Pierre l'a orienté justement vers tout ce qui était douceur, ce qui était confortable, les formes, les matières. Il fallait que ça soit beau, comme vous l'avez souligné, et confortable. Mmh. Donc, nous avons travaillé bien sûr les tissus, made in Tarn, made in France, tout en douceur. Nous avons travaillé les formes, les coutures. Toutes les coutures sont travaillées et adaptées aux vêtements.
Vous avez un atelier ?
Alors, nous n'avons pas d'atelier. Nous faisons fabriquer dans le Tarn aussi.
Tout.
Petit atelier artisanal. Je vous ai dit, c'est du made in Tarn.
C'est formidable.
C'est le Tarn qui récupère le fil et qui va tisser le fil et qui va confectionner. On est vraiment dans, j'allais dire, la petite entreprise, parce que toute notre famille nous a soutenus, tous nos amis nous ont soutenus, les associations nous ont soutenus. On est vraiment dans un allant très positif, surtout quand vous touchez, vous avez la curiosité de toucher.
Ouais, c'est extrêmement agréable.
Voilà, on est dans la douceur. Et puis, bien sûr, qu'est-ce qui nous gêne à toutes quand on achète un vêtement? Je dis à toutes, mais c'est aussi vrai pour tous. Bah, l'étiquette.
Les étiquettes.
Et là, il n'y en a pas.
Il y en a, mais un tout petit fil fait que vous l'enlevez sans blesser le vêtement.
Ah, il n'est pas troué au moment.
Exactement,
ouais.
On n'a même pas besoin d'une paire de ciseaux. Mmh. On ne déchire pas, on ne troue rien. C'est naturel, vous avez donc le vêtement qui vous va comme un gant. En Cenovi comme un gant.
Et on a fait fantastique produit. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est de voir qu'en France, souvent, les professions médicales vont s'occuper en effet des traitements du côté médical. Et en revanche, toute la partie bien-être qui est essentielle dans la guérison et dans la confiance en soi, qui est également clé, sont souvent laissées à l'écart. Est-ce que vous sentez une forte prescription et un soutien des professions médicales ou aujourd'hui, ça ne les intéresse pas encore
Alors, les soins de support se sont développés de plus en plus. Et nous, quand on est allé voir il y a déjà 4 ans avec ce projet, les gens étaient sceptiques, mais ça a bien évolué. Donc on est soutenu par la population médicale, mais beaucoup par les associations, parce qu'on est allé voir et on a démarché toutes les associations qui s'occupent, qui prennent en charge toutes ces femmes, parce que c'est une vie autour du cancer, la vie autour de ces patientes qui ont des psoriasis, pardon, qui ont de l'eczéma, c'est une vie, elles forment vraiment des groupes et elle s'appuie, elle nous aide vraiment aussi.
Mais ce qui est génial aujourd'hui, c'est que vous êtes devenue inclusive. C'est que vous n'êtes plus seulement sur une population de femmes qui ont eu des cancers. Vous n'êtes pas seulement sur une population de femmes ayant de l'eczéma ou du psoriasis. Mais vous êtes sur n'importe qui. Nous toutes autour de la table,
ça
on
nous
pourrait
donne envie.
Avoir envie de porter ces vêtements. Mais c'est ça qui est génial.
Il n'y a pas de différence. Justement, combien de pièces vendues depuis vos débuts?
On est entre 1000 et 1500 pièces pour l'instant. Voilà. Donc, en plus, le fait de travailler dans le Tarn nous permet d'avoir une réactivité. Donc, on connaît maintenant nos fournisseurs, nos confectionneurs. On est capable de leur dire, il nous faut ça rapidement. Ils arrivent toujours à nous trouver un petit espace. Ils nous aiment beaucoup. Ils sont gentils. On a créé de bonnes relations.
Tout un
donc,
circuit
tout
court
va bien.
En plus. C'est formidable.
Voilà.
De quoi avez-vous besoin aujourd'hui? Vous avez besoin d'un financement? Vous avez besoin d'être distribué un peu
d'être
plus?
D'être connu et de financements qui vont venir parce que tout ça, ça coûte cher pour élargir la collection, parce qu'on a plein d'idées. On développe des sous-vêtements. On développe d'autres pièces, que ce soit des chemises, d'autres robes. On a envie, Marie-Pierre avait en tête de toujours développer l'enfant parce que c'est important, l'enfant
et l'homme.
Ce qui est
vrai pour la femme, elle est vraie aussi pour l'homme et pour l'enfant, vous avez raison.
Donc
ce sont les prochaines collections qui vont arriver.
On espère.
Ben, on l'espère aussi.
on l'espère aussi
pour vous et pour Cénovi.
Merci beaucoup.
Qui parle de douceur, finalement.
Exactement.
Merci beaucoup, Françoise Escourou, d'être venue nous présenter
Merci
cette solution aujourd'hui sur Europe 1.
Il est midi 57.
Europe 1.
Vous êtes nombreux à être en train de faire vos choix dans Parcoursup, un vrai casse-tête pour beaucoup de familles et pour beaucoup d'adolescents. Alors, on a choisi de vous aider aujourd'hui sur Europe 1 à parler orientation scolaire. À tout de suite.
Europe 1.
Midi 14h.
La France bouge. Raphaël Duchemin.
La France bouge avec vous chaque jour entre 12h30 et 14h. Et on va ouvrir le dossier du jour. Vous êtes probablement très nombreux en ce moment à faire vos choix dans Parcoursup. C'est vrai que c'est un casse-tête pour pas mal de jeunes avec leur famille. Alors nous avons choisi de vous aider sur Europe 1 à faire de l'orientation scolaire. Et vous allez voir qu'il y a des initiatives qui peuvent réellement vous apporter des clés. Bonjour Leïla Doché.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la cofondatrice de WePrep. Alors, je précise que ça s'écrit W-E-E-P-R-E-P. C'est une appli qui aide les ados à sélectionner un premier projet d'orientation en partant en fait de l'ado lui-même, de ce qu'il aime, de ce qu'il est. C'est ça qui fait la différence. Racontez-moi comment est née l'idée, parce que vous avez travaillé en 2007 et 2008 avec des décrocheurs scolaires et c'est ça qui vous a mis sur la piste.
Absolument. C'est parti en fait d'une constatation et aussi d'un échec professionnel dans l'accompagnement des décrocheurs. Permettre en fait aux adolescents de raccrocher avec un projet, c'est d'abord en fait s'intéresser à qui ils sont, ce qu'ils veulent, mais leur identité. Et donc, j'avais pas les clés. Donc, j'ai fait une reconversion professionnelle qui a duré 4 ans. Donc, 2 années, en fait, en GRH et 2 années, en fait, en coaching cognitif et comportemental qui m'ont amené, finalement, à développer une solution qui permet à chaque jeune d'apprendre à se connaître. Et tout en s'acceptant et aussi à apprendre aussi à parler de soi. Donc, le problème des jeunes, c'est pas tant qu'ils savent pas qui ils sont, c'est aussi le dire. Et apprendre à trouver les mots pour le dire. C'était ça le challenge en fait de WePrep. Donc WePrep, c'est une application mobile qui permet à chaque jeune en fait de bâtir un premier projet d'orientation grâce à la connaissance de soi. Donc c'est une application qui renferme d'autres applications qui constituent un parcours logique d'orientation.
En fait, en 2015, vous vous êtes inscrite à l'association 100 000 entrepreneurs avec le désir d'intervenir dans les collèges, dans les écoles, dans les lycées pour justement essayer d'identifier ce qui manquait, quels étaient les besoins. Et c'est ce qu'ils vous ont fait remonter.
Ils vous ont dit,
on ne nous écoute pas, on ne nous entend pas sur ce qu'on a envie d'être, ce qu'on a envie de faire.
Absolument. Souvent, l'orientation scolaire, elle est traitée
résultat scolaire.
Sous l'angle de l'information métier. On commence par la fin. Et le premier bloc, c'est l'identité de l'adolescent. Qui il est?
C'est-à-dire
qu'est-ce qu'il veut être? Comment il conçoit sa réussite à lui aussi? Ça, c'est quelque chose
d'important.
C'est-à-dire,
qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit, toi, t'es bon en maths, tu vas pouvoir être chercheur ou tu vas peut-être pouvoir faire tel ou tel métier, alors que c'est l'inverse. Il faut lui dire, qu'est-ce que tu aimerais faire?
Absolument. Qui tu es? Qu'est-ce que tu aimerais faire? C'est pas parce qu'on est bon en maths qu'on veut tous devenir ingénieur. D'ailleurs, dans mon équipe, il y a une ingénieure qui s'appelle Carline de Castro et qui nous a fait, en fait, qui a conçu aussi le parcours avec moi, qui aujourd'hui ne veut plus être ingénieure et elle veut faire des études de psychologie. On la pousse aussi, en fait, dans l'équipe à le devenir. Et du coup, c'est pas parce qu'on est bon, on a une bonne note en mathématiques que notre avenir, il est tout tracé. C'est beaucoup plus compliqué que ça, quoi. Donc c'est le sens que l'on met dans ce qu'on fait, ce qu'on... Voilà, c'est ça, dans nos apprentissages.
Elisabeth,
ce sera un réflexe pratique, hein, de se dire, bon, il est bon en maths, il va devenir ingénieur.
C'est sécurisant.
C'est sécurisant, on se met dans une case et puis on ne bouge plus.
Voilà.
Mais ça, c'était avant.
Oui, c'était avant, mais quand même, hein, l'orientation, ça reste compliqué.
C'est hyper compliqué.
Ça concerne combien de jeunes? Allez.
Plus de 4 lycéens sur 10 ne savent pas quoi faire après le bac. Et à peine plus de la moitié des jeunes âgés de 18 à 25 ans, donc après le bac, avaient un projet professionnel au moment du choix de leur orientation, avec des taux équivalents chez des élèves diplômés de l'enseignement professionnel et les élèves qui étudient dans le supérieur. Donc, ce problème d'orientation, ça concerne absolument tous les jeunes, tous les milieux, ce dilemme de que vais-je faire plus tard.
C'est le dilemme aussi de l'adulte qui est dans le monde du travail et qui est en quête de sens. Cette quête
Donc
de sens,
poursuit,
elle est tout à fait... Elle commence bien en amont, elle commence dans l'adolescence. Et c'est justement pendant cette période-là qu'il faut questionner l'enfant à outrance et l'amener vers son propre chemin, faire du sens, donner du sens à son parcours scolaire, c'est donner du sens à ses apprentissages aussi. Qu'est-ce que je fais, moi? Quelle place je trouve dans un monde qui bouge constamment? C'est ça.
Marie Saint-Madiras, notre coach.
Entièrement d'accord avec vous, et je pense qu'en effet la quête de sens va se retrouver beaucoup dans ce projet. Je trouve que ce qui est génial aussi, c'est que vous avez certainement revalorisé des filières, parce qu'aujourd'hui les étudiants, j'ai l'impression, sont souvent poussés vers des filières dites classiques, dites relativement intellectuelles quand même, quand derrière il n'y a pas nécessairement de choix de leur part de le faire. Et là, ça va peut-être valoriser des très belles filières qui ont été délaissées en France, plus artisanales, plus manuelles. Que vous allez pouvoir aiguiller des étudiants vers ces voies-là.
Nous, on essaie de valoriser les compétences psychosociales. Donc ces compétences psychosociales, elles sont, c'est la créativité, c'est la responsabilité, c'est l'autonomie.
C'est tout ce qu'on appelle les soft skills.
Les soft skills, c'est ça, absolument.
Et puis le retour aux sources et à l'authenticité.
C'est les ressources internes existantes chez chacun d'entre nous.
Les qualités de la personne, tout simplement.
Absolument. Nous, on est vraiment axés sur ça. On ne parle pas de métier. On essaye de développer ça chez l'ado.
Et en partant de ça, chez l'ado, vous arrivez à trouver ce qui va lui correspondre?
Ça va s'ancrer dans un dialogue entre lui et l'adulte. L'adulte qui va l'accompagner, ça va être...
Un exemple à nous donner, par exemple.
Ça va. Alors, l'application, elle est dotée d'un tableau de bord de suivi qui est à la fois, en fait, destiné aux professeurs principaux ou aux parents. Et donc, ce tableau de bord de suivi reçoit des statistiques de compétences de l'adolescent, en fait. Quand il y a mesure qu'il va avancer dans son parcours, eh ben, il va donner des réponses, il va générer de la data. Et donc, nous, on structure justement ces réponses et on les transforme en fait en information en fait qui va être utile à l'adulte qui va accompagner.
Oui, pour que l'adulte sache que l'enfant qu'il a devant lui, si lui le prédestinait à un métier d'ingénieur, ce n'est pas forcément ce qu'il a envie de faire, mais il va l'aider à se réorienter.
C'est dans ce dialogue-là que va s'effectuer justement la réflexion à deux, s'orienter, ça ne se fait pas seul, hein, ça se fait dans la relation d'aide. Donc c'est ce qu'on essaye aussi de faire à travers cet outil.
On reste ensemble sur Europe 1 pour parler aujourd'hui orientation scolaire.
Il est 13h17.
Europe 1.
Et c'est vrai que ça n'est pas évident de trouver sa voie quand on a 14-15 ans notamment. Alors la Génération Z a créé son propre site, Génération Zébré. À tout de suite.
On parle beaucoup de Parcoursup en ce moment. Et bien, dans la France Bouge, on vous aide à y voir plus clair en termes d'orientation scolaire avec des innovations. Si vous avez des questions, c'est le moment. Posez-les à nos invités via Twitter, hashtag Europe 1, ou alors appelez-nous Raphaël au 3921.
Et c'est vrai que quand on est adolescent, qu'on commence à nous demander à l'école qu'est-ce que tu veux faire plus tard, on n'a pas forcément une idée très précise sur le métier, sauf à avoir une vocation. Alors on commence à se poser pas mal de questions. Bonjour Juliette Roubaud.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la cofondatrice de Génération Zébrée. Qu'est-ce que c'est ? C'est un site internet pour aider la fameuse Génération Z à trouver sa voie. Comment vous est venue l'idée de ce site internet ?
Alors cette idée nous est venue parce qu'on a eu une première expérience professionnelle dans une entreprise, dans deux startups en l'occurrence. Et en fait, en arrivant en entreprise, on s'est dit c'est fou le nombre de métiers dont on n'a jamais entendu parler avant, qui existent, qui sont en plus pour certains hyper intéressants. Et en plus, parfois, ce qui sont des métiers qui, justement pour lesquels les entreprises cherchent à recruter. Et
on s'est dit, quel genre de métier ?
Moi, par exemple, je pense à un métier qui s'appelle Product Manager, qui consiste à être en fait chef de projet dans l'informatique. C'est un métier qui est à l'interface des équipes techniques et plus marketing commercial. Et je me suis dit, c'est fou qu'en fait, on n'ait jamais entendu parler de ces métiers avant, pendant nos études ou même au lycée. On est toujours confronté au même métier dont on entend parler et j'avais envie de faire découvrir ces métiers-là. Bah, aux plus jeunes.
Donc il manquait une sorte de courroie de transmission entre le milieu professionnel et les jeunes qui sont en train de choisir ce qu'ils vont faire plus tard.
Ouais, exactement. Donc l'idée, c'est de simplifier cette découverte du monde professionnel pour qu'un jeune puisse découvrir quels sont les métiers qui existent vraiment et en quoi ça consiste aujourd'hui, en espérant qu'il trouve l'inspiration dans ces métiers-là.
Alors vous commencez à travailler sur le projet en 2016-2017, c'est
ouais,
ça ?
C'est
comment,
ça, exactement.
Comment est-ce que vous vous y prenez ?
Donc nous, on a passé pas mal de temps avec des lycéens justement pour leur demander comment ils appréhendaient cette question de l'orientation, quelles étaient les questions qu'ils se posaient et les solutions vers lesquelles ils se tournaient.
Et alors, elles sont comment ces questions ?
C'est un sujet qui est hyper anxiogène. Donc de la bouche de lycéens, même de très bons lycées parisiens, on entend souvent qu'ils ont peur du chômage. En tout cas, il y a une appréhension de l'intégration du monde professionnel. Et souvent, ils ne savent pas trop vers quelle source d'information se tourner. Et donc nous, à partir de là, on a commencé ce qu'on savait faire, c'était des sites internet. On a commencé à imaginer un site qui allait justement les accompagner dans cette découverte des métiers. Donc notamment avec un Tinder des métiers qui fonctionne bien sur cette cible-là. Et donc on a commencé à imaginer comme ça un site qu'on a construit étape par étape avec du contenu sur les métiers, notamment en vidéo, pour leur permettre de découvrir c'est quoi être product manager ou c'est quoi être ingénieur dans l'aérospatial aujourd'hui.
Alors admettons, je m'inscris, même si je n'ai plus l'âge, je m'inscris, qu'est-ce qui se passe ? On va me proposer effectivement des profils de métiers, des images de métiers, c'est
ça ? Oui, c'est ça. En fait, vous vous inscrivez et donc si vous n'avez aucune idée de ce que vous voulez faire, on vous propose un test d'orientation, donc avec un test de personnalité. Donc là, encore une fois, on parle de la personne. Et en fonction des résultats de ce test, nous, on va ordonner notre base de métiers. Et donc, quand vous allez arriver sur le fameux Tinder, les premiers métiers qu'on va vous proposer sont cohérents par rapport à votre profil. Et là, c'est vous qui nous dites si ça vous intéresse ou pas, pour qu'on fasse évoluer nos suggestions. Et ensuite, en fonction des métiers qui vous intéressent, nous, on va vous proposer les formations qui existent pour se former pour ces métiers-là.
Vous avez élargi votre offre aussi parce que depuis le mois d'octobre, vous référencez toutes les formations post-bac de France.
Ouais, exactement. Donc, peu importe la profession, la filière qui vous intéresse, nous, on va être capable de vous présenter les formations qui existent derrière, qu'il s'agisse de formations publiques, privées. Donc, que ce soit votre formation soit à la fac, dans une école d'ingénieurs, une école de commerce ou en IUT, vous trouverez tout sur Génération Zébrée. Et l'idée, c'est justement que vous puissiez consulter ces informations, les ajouter à votre sélection pour préparer notamment vos vœux sur Parcoursup.
Marie Samadiras.
Aujourd'hui, votre modèle économique, c'est quoi ? Ce sont les écoles, les formations qui payent pour être visibles ou c'est de la pub ?
Ouais, on a deux sources de revenus. En fait, la première, c'est qu'on travaille avec des branches professionnelles, donc notamment sur la partie découverte des métiers et valorisation des métiers d'avenir. Donc, on travaillait avec les anciens OPCA qui sont devenus des OPCO et également, en effet, avec les établissements d'enseignement supérieur pour valoriser justement les débouchés accessibles à leurs diplômés. Comme on est dans une optique de favoriser l'insertion professionnelle de la génération Z, sur les métiers, on valorise ce qu'on appelle les métiers d'avenir, qui sont les métiers qui recrutent le plus. Et sur les formations, on valorise un maximum de données pour qu'un jeune ait une idée très claire de cette formation, ça va pouvoir me permettre de faire tel type de métier ou de travailler dans tel secteur pour qu'un jeune il puisse avoir des informations claires et choisir la formation qu'il souhaite.
Donc hyper intéressant pour les lycées et les établissements secondaires. Vous sentez qu'ils poussent ce type de solution à leurs élèves aujourd'hui ou pas encore ?
Alors nous, c'est surtout des jeunes qui arrivent directement sur le site. Et oui, il y a de plus en plus d'enseignants qui le découvrent et qui le relaient directement en fait à leurs élèves.
200 000 lycéens, c'est ça qu'ils l'ont utilisé sur l'année passée ?
Ouais, exactement. Donc on a vraiment des dizaines de milliers de personnes qui viennent, des lycéens en lycée généraux, lycée pro, et qui s'intéressent à tout type de secteur.
Vous parlez des lycées pro justement, vous mettez notamment en valeur des secteurs qui habituellement ne le sont pas forcément. Je pense effectivement au bâtiment ou à l'industrie, à l'hôtellerie-restauration. Vous essayez de redorer peut-être un petit peu leur blason aussi en montrant qu'il y a des métiers intéressants dans ces filières-là.
Oui, tout à fait. Bah, de dire déjà tous les métiers qui existent et ensuite d'identifier facilement quels sont les métiers qui recrutent le plus. Et après, bah, notamment à travers les vidéos qu'on fait où on interview des professionnels, des jeunes professionnels qui parlent de leur métier, de leur quotidien, on montre à quoi ressemblent ces métiers-là vraiment aujourd'hui pour dépasser justement tous les préjugés qu'il peut y avoir et donner envie à un jeune de s'orienter vers cette filière.
Elisabeth, il y en a beaucoup des plateformes en ligne comme ça qui existent déjà pour orienter les élèves ?
Oui, il y en a évidemment. Par exemple, vous avez monsalonétudiant.com. C'est une plateforme de salon étudiant, mais de salon étudiant virtuel. On a des salons des grandes écoles, des écoles de commerce, des métiers de la mode, des métiers du web, etc. Tout est virtuel et depuis une tablette, les étudiants ou les lycéens peuvent accéder gratuitement à la plateforme pour participer au salon de leur choix. Ils peuvent trouver des formations, des solutions. Ils participent même à des conférences, comme quand on assiste à des tables rondes dans des salons physiques. Et ils peuvent même, par vidéo ou par téléphone, échanger avec des professionnels du secteur qui les intéressent. Vous avez aussi Job Teaser qui aide les étudiants à s'orienter. La start-up, d'ailleurs, a levé 50 millions d'euros en septembre. Elle compte plus de 600 universités et d'écoles en Europe qui ont intégré cette plateforme. Il y a plus de 70 000 entreprises qui postent directement leur offre d'emploi sur Job Teaser.
On reste ensemble et on continue à parler orientation scolaire aujourd'hui sur Europe.
Il est 13h26.
Europe 1.
Mettre les étudiants directement en relation avec le monde professionnel pour les aider à trouver la bonne voie, c'est aussi ce que fait autrement My Job Glasses. À tout de suite. Europe 1.
Aux côtés des chefs d'entreprise et de leurs équipes, AXA Prévention vous présente La France bouge avec un sujet délicat, l'orientation scolaire de nos enfants qui est parfois un vrai casse-tête. Et bien cet après-midi dans La France bouge, on vous aide à y voir plus clair grâce aux innovations de nos invités. Vous êtes, j'en suis sûre, à l'écoute. Participez en posant vos questions via Twitter, hashtag Europe 1 ou appelez-nous, n'hésitez pas, 3921 Raphaël.
Et oui, que vont-ils faire comme métier nos enfants plus tard quand ils seront grands ? C'est une question qu'ils se posent. Alors, ils ont souvent un avis très affirmé quand ils ont 4-5 ans. C'est après que ça se complique. Bonjour Émilie Corchia.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la cofondatrice de My Job Glasses. C'est une plateforme digitale qui met en relation les étudiants et les professionnels pour aller finalement dans le concret, c'est-à-dire aller voir directement à quoi ressemble un vrai métier.
Exactement. En fait, on s'est rendu compte que les jeunes n'ont pas vraiment d'idée des métiers qu'ils choisissent et que très souvent, arrivés dans l'entreprise, ils se rendent compte que ça ne leur plaît pas. Et aujourd'hui en France, 46% des jeunes quittent leur premier emploi avant la fin de la première année.
Mais pourquoi ? Parce qu'ils idéalisent ?
Parce que ce n'est pas forcément toujours clair dans le titre ou dans l'offre d'emploi auquel on a postulé.
Parfois, il y a une différence entre
l'offre et la réalité. Il y a une vraie différence
entre
l'offre et la réalité, ou parfois même juste dans le titre du métier. Et donc, du coup, l'idée, c'est de permettre à ces jeunes de découvrir de plus près les métiers en allant en amont rencontrer des collaborateurs en entreprise pour découvrir leur quotidien, pour découvrir aussi des nouveaux métiers parfois qu'ils ne connaissaient pas et pouvoir trouver la voie dans laquelle ils vont être épanouis. Et puis nous, ça nous fait plaisir aussi de faire aller les jeunes dans l'entreprise. C'est un vrai besoin. Finalement, on se rend compte que les jeunes vont assez peu souvent dans l'entreprise. Donc même si on est une plateforme digitale, la rencontre se fait soit dans les locaux d'entreprise si le jeune vit dans la même ville que le collaborateur qu'il va rencontrer, soit via Skype. Mais c'est très important qu'ils puissent se voir et qu'ils puissent échanger longuement. Donc c'est des rencontres d'une heure où le jeune arrive avec des questions et repart à la fin de son entretien en ayant une meilleure connaissance.
Ce qui est assez intéressant, c'est que ça démarre par une expérience quasi personnelle, celle de votre cofondateur, je crois, qui n'était pas très heureux de se lever le matin. On est en 2015 et vous aviez pas mal d'amis qui étaient dans la même situation, qui se disaient « bon allez, je vais bosser, mais j'ai pas envie ».
Alors, ce n'était pas le cas de Frédéric, voyez, qui a cofondé avec moi en effet la plateforme, mais c'était le cas de nos amis. On avait, on va dire, tout pour être heureux sur le papier. On était diplômés de grandes écoles, on avait travaillé pendant 10 ans dans des grands groupes. On gagnait très bien nos vies. Et pourtant, tous les jours, on n'était pas contents d'aller travailler le matin. Et quand on parlait avec eux, très souvent, ce qui revenait, c'est « si j'avais su ce que je sais maintenant, je n'aurais pas fait les mêmes choix ». Et donc, on s'est dit qu'il fallait trouver des solutions pour que les jeunes qui étaient encore sur les bancs de l'école n'arrivent pas dans la même situation que nos amis 10 ans plus tard, mais qu'ils aient pu faire des choix par conviction alors qu'ils sont trop souvent faits par défaut.
Alors, vous avez identifié dans l'étape d'avant, à l'école, ce qui ne marchait pas ? Quel était l'endroit où justement se posait le problème ?
En fait, on s'est rendu compte que très peu de jeunes réseautaient. Le mot réseau, c'est un mot qui fait un peu peur aussi, qu'on associe souvent au piston, c'est réservé qu'à certains. Alors qu'en fait, le réseau, c'est accessible à tous. Et on a voulu le rendre accessible à tous. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a été dans les écoles, former les jeunes à la démarche réseau. Donc nous, on est post-bac, donc on va dans les IUT, dans les BTS, dans les universités et les grandes écoles. Donc on n'oublie personne, on est vraiment très large. On va former tous les jeunes, quel que soit leur parcours, à la démarche réseau. Donc on leur explique que, un, il faut oser, que c'est fait pour eux, que les professionnels sont même contents de partager leur quotidien avec eux. Donc il n'y a pas de raison de ne pas y aller. Deux, on va leur donner toutes les clés pour réussir. Donc, on va les aider à poser les bonnes questions. Les bonnes questions, un jeune qui ne sait pas, la première question qu'il pose à un professionnel, c'est « Bonjour, est-ce que vous avez un stage pour moi ?» Ce n'est pas la bonne question à poser.
Alors, c'est quoi la bonne question ?
La bonne question à poser, c'est « Qu'est-ce que vous faites au quotidien ? Qu'est-ce que c'est votre métier ? Comment ça se passe ? C'est quoi une journée type pour vous ? Qu'est-ce que vous aimez particulièrement dans votre métier ? Qu'est-ce qui est plus difficile dans votre métier ? Mais c'est ce qui va vous permettre en fait, de vous rendre compte si le métier est fait pour vous ou pas.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi, une histoire de génération ? On se rend compte parfois quand on reçoit des jeunes qui viennent en observation, qui nous posent des questions, qu'on a pas mal de questions sur les horaires, sur est-ce qu'on peut terminer à telle heure ? Est-ce que vous avez beaucoup de vacances ? Est-ce que ça aussi, ça freine pas parfois le professionnel à aller vers le jeune ?
Alors, je ne sais pas si ça freine le professionnel à aller vers le jeune, mais nous, c'est des questions qu'on ne leur interdit pas de poser, puisque ça fait aussi partie des choses qui nous permettent de faire un choix sur un métier en particulier. Pour autant, il ne faut pas s'en arrêter là. Donc, on les aide à trouver toutes les autres questions aussi qu'ils vont pouvoir poser aux professionnels pour pouvoir avoir une visibilité concrète sur les métiers. Mais soyons honnêtes, on connaît très peu de métiers. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, un jeune, il n'a pas tellement de choix pour trouver ses premières expériences professionnelles. Donc, il va se retrouver au dernier moment sur des job boards à chercher des mots-clés qui sont les seuls qu'il connaît.
Alors c'est quoi les mots-clés, en général ?
C'est les grands métiers que tout le monde connaît, mais qui ne sont pas forcément ce que vous voulez faire.
C'est quoi ? C'est marketing, commercial,
finance. Mais aujourd'hui, ils savent pas ce que c'est. Et puis derrière le mot finance, il y a 60 métiers très différents qui n'ont rien à voir. Vous êtes trader à la Société Générale ou vous travaillez derrière un guichet dans une agence bancaire, vous ne faites pas le même métier.
Et pourtant, et dans les deux cas, finance, ça s'appelle la porte d'entrée, évidemment.
Exactement.
Marie Sermadiras.
Vous n'avez pas peur d'avoir un problème d'équilibre à un moment parce qu'il y aura plus de jeunes qui voudront des témoignages de professionnels que des professionnels prêts à donner de leur temps, en toute logique. Et de la même manière, en tant que jeune, je vais peut-être vouloir voir 3, 4, 5 professionnels quand un professionnel ne va pas pouvoir recevoir 3 jeunes dans l'année ou peut-être 5 jeunes dans l'année, ça sera peut-être un peu trop pour lui. Comment vous allez assurer cet équilibre entre ceux qui sont mentorés et ceux qui sont mentors ?
Alors aujourd'hui, ça marche plutôt bien sur la plateforme. On a réussi à avoir cet équilibre-là. On a 100 000 jeunes d'un côté et 40 000 professionnels de tous métiers et secteurs différents. Et en fait, les professionnels sur la plateforme vont choisir un nombre de temps maximum qu'ils veulent allouer aux jeunes. Donc en général, nos pros donnent 2 heures de leur temps chaque mois, 2 rendez-vous d'une heure, avec un jeune différent à chaque fois. Ça leur prend peu de temps, ils peuvent le mettre à n'importe quel moment. Ce qui fait qu'on s'est rendu compte que sur la plateforme, on arrive à avoir tout type de personnes dans l'entreprise, même des personnes qui ont des très hauts postes et qui sont normalement occupées et qu'on ne voyait pas suffisamment dans les salons et proches des jeunes. Et donc du coup, oui, c'est notre enjeu, c'est faire grossir à la fois l'offre et la demande et donc nous assurer qu'on ait suffisamment de jeunes d'un côté et suffisamment de professionnels pour que tout le monde soit en lien et que ça fonctionne bien.
Vous avez 40 000 professionnels aujourd'hui qui travaillent avec vous ?
Exactement.
L'idée, c'est d'en avoir toujours plus.
Bien évidemment.
Vous avez des secteurs comme ça qui vous manquent ?
Alors, il ne nous manque pas de secteur en particulier. On est aujourd'hui très ouvert. On a peut-être un peu moins de médecins ou ce genre de choses, puisque ce n'était pas les premières formations dans lesquelles on a été. Mais aujourd'hui, on arrive à avoir une diversité très, très, très large de professionnels. Et on a été nous-mêmes surpris par l'engagement des professionnels qui sont contents de venir sur la plateforme et de tendre la main à un jeune en partageant avec lui son métier, son quotidien.
Elisabeth ?
Sans rien y connaître pour le jeune, quels sont aujourd'hui les secteurs d'activité qui les font le plus rêver ? Ils recherchent quoi ? Ils tapent finance, mode,
ils tapent beaucoup digital, marketing, finance, qui sont les métiers qui ressortent le plus pour commencer.
Les secteurs.
Exactement. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de leur conseiller d'autres recherches, c'est-à-dire qu'on va leur donner dans leur navigation des exemples de métiers ou de professionnels qui ont été rencontrés par d'autres étudiants qui avaient fait la même recherche qu'au départ. Notre but, ça va être de leur ouvrir l'esprit le plus possible et de leur permettre de rencontrer un maximum de professionnels et découvrir des nouveaux métiers.
On reste ensemble, on a encore plein de questions à vous poser. C'est dans un instant sur Europe 1.
Il est 13h37.
Europe 1.
Et on attend les vôtres aussi, 39-21 et Twitter, hashtag Europe 1. La France bouge et parle orientation scolaire aujourd'hui.
Cet après-midi dans La France bouge, on parle orientation scolaire et on en parle, Raphaël Duchemin, avec vos invités.
Nous sommes avec Laïla Duchère, cofondatrice et dirigeante de WePrep, application qui aide les ados de 11 à 18 ans à bâtir un premier projet d'orientation par la connaissance de soi. Juliette Robot, cofondatrice de Génération Zébrée, site internet pour aider la Génération Z à trouver sa voie. Et Émilie Corchia, cofondatrice de My Job Glasses, une plateforme digitale qui met en relation les étudiants et les professionnels. Et nous avons un appel au 39-21, c'est Jérémy qui est dans le Maine-et-Loire qui nous appelle aujourd'hui. Bonjour Jérémy.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes artisan, vous êtes dans le bâtiment.
C'est ça.
Et alors, quand on parle orientation scolaire, ça vous évoque des choses ?
Oui, moi je suis du bâtiment et on a tendance à en faire une voie de garage, alors que c'est pas forcément vrai. Du coup, moi j'ai pas eu cette vision-là de mon métier, quoi. Je sais que moi, dans le bâtiment, ceux avec qui j'ai été formé, ils m'ont appris à aimer mon métier. Ils m'ont pas appris mon métier, ils m'ont appris d'abord à l'aimer. Mm-hmm. C'est ça, il faut que le monde du travail, il faut qu'il attire les jeunes, déjà. Mm. C'est déjà le problème. On dit que les jeunes, il y a des soucis et tout, mais...
Ça n'est pas la fille de peintre en bâtiment que je suis qui vous dira le contraire, hein, Jérémy.
D'accord. Oui, mais c'est ça. Hein. Donc, nous, on a... Enfin, voilà, c'est plus que... C'est plus qu'un travail, on fait quelque chose pour la collectivité de concret. On est des productifs, on sait qu'on fait partie de quelque chose.
Donc vous dites aujourd'hui, il manque peut-être ce volet transmission, c'est ça ? Vous confirmez, Émilie ?
Non, c'est même pas une question de transmission, c'est une question de valeur. La valeur qui est donnée à la valeur travail manuelle, elle est quasi... je le vois, hein, on en fait une voie de garage, vous voyez un peu, comme si on était moins intelligent. Moi, j'ai pas de problème. Hein. Niveau vocabulaire, sûr que j'en ai beaucoup moins qu'un avocat. Par contre, moi, mes outils, ils ne sont pas forcément que verbal ni écrit.
Oui, on ne vous demande pas la même chose non plus, hein, Jérémy.
J'ai une façon de m'exprimer avec qui est bien différente de ce que font certaines personnes.
Vous avez bien raison de le préciser. Vous êtes d'accord, Émilie ?
Je suis tout à fait d'accord. Bonjour, Jérémy. Et c'est exactement ce qu'on veut faire, c'est-à-dire avoir des professionnels comme vous qui vont pouvoir parler de la passion de leur métier et la transmettre à ces jeunes. Parce que ces jeunes, en fait, la seule chose qui les intéresse, c'est de trouver un métier qui va leur convenir. Et donc d'avoir des professionnels comme vous qui sont en capacité de leur transmettre cette passion et l'amour de votre métier comme vous l'avez eu vous-même quand vous avez été formé, c'est exactement ce qu'on recherche et c'est exactement ce qui va aider les jeunes à trouver leur voie.
Non, mais c'est au-delà de ça. Hein. C'est ce que j'avais un ancien collègue, on était tombé sur une personne qui était un petit peu compliquée, parcours difficile et tout ce que vous voulez. Donc famille un peu décomposée, enfin qui n'était pas forcément... précaire, et du coup, lui, il a pris le jeune sous son aile et il l'a ramené dans le monde du travail, mais d'une façon aussi simple. Il a dit seulement, moi, je ne vais rien te donner. Je vais juste te proposer de me suivre. C'était un peu comme ça, vous voyez.
Et de t'apprendre des choses. Je vois que Laïla a envie de réagir.
Moi, c'est, je pense qu'il y a déjà notre système éducatif qu'il faut interroger et qui, justement, vous disiez... qu'on envoyait les enfants en échec dans les voies professionnelles. Et donc, c'est un vrai problème du système éducatif français. La valorisation des filières professionnelles, j'espère qu'on va se réveiller et qu'on va justement agir sur ce problème. Moi, j'ai mené une étude auprès d'une étude RH, en fait, pendant mes études, qui parlait justement de la filière bâtiment. Il y avait les RH qui disaient, en fait, qu'ils avaient énormément de mal à recruter justement des personnes en fait qui sont motivées, qui sont professionnelles et qui vont avoir des perspectives d'avenir dans le métier. Aujourd'hui, il faut vraiment faire un appel à radio, hein, on est à la radio, au gouvernement d'agir très rapidement parce que c'est des métiers aujourd'hui sont obligés de recruter à l'étranger
pour combler en fait la demande de main-d'œuvre en France. Donc, c'est un vrai problème.
Alors que ce sont de très beaux métiers qui existent depuis très longtemps chez nous. Merci beaucoup Jérémy pour votre témoignage au 3921. Marie ?
Je pense qu'en effet, là, on voit vraiment le problème actuel qui est cette volonté en France peut-être de trop pas voir d'intellectuels et pas de gens manuels. Aujourd'hui, toutes ces voies-là sont dévalorisées. Pour avoir beaucoup bossé, par exemple, avec les professions de type coiffeur, institut, des professions qui, aujourd'hui, ils vont comme une voie de garage, parfois, ce qui est bien dommage, puisque c'est un vrai savoir-faire à la française. Je trouve que ce qui est génial avec ces trois entrepreneurs qu'on a sous les yeux, c'est qu'on a un peu une chaîne de valeur entière devant nous, avec vous, Laila et WePrep, qui est vraiment dans la partie diagnostic, d'aider ces jeunes à avoir une solution personnalisée pour eux. Avec vous, Juliette et Génération Zébrée, d'avoir cette capacité à produire du contenu et à leur fournir des réponses à leurs questions. Et puis ensuite, avec vous, Émilie et MyJob Glasseuse, d'être capable de créer ces rencontres et peut-être à terme de... Peut-être que tous les trois, vous serez amenés à faire des affaires ensemble, à créer une sorte de... J'imaginerais de grands forums pour l'éducation. Si moi, grâce à vous, je sais que voici le type de job qui pourrait m'intéresser, que je peux me renseigner et qu'ensuite je peux rencontrer des professionnels, on pourrait le faire non seulement en one-to-one et en personnalisé, mais sous forme de vrais forums entre les professionnels, le monde du travail qui est aujourd'hui un peu dévalorisé, je trouve, malheureusement, et ces jeunes qui sont en perte de sens et qui ont besoin d'aide.
Et
pour
on
mieux
pourrait,
comprendre
on
leur
pourrait le faire avec Europe 1. Mais qu'est-ce que vous en pensez,
Elisabeth ? Le grand forum Europe 1, la France bouge pour l'orientation scolaire.
Ce serait une bonne idée. Ça part de là, on va en reparler. Dites-moi, il y a un réseau social pour orienter les 14-25 ans ?
Oui,
vous en avez trouvé un ?
Jobberl, c'est le premier réseau social professionnel pour l'orientation des 14-25 ans. C'est une plateforme qui a été lancée en 2013 pour que les jeunes puissent échanger avec des professionnels et des étudiants pour trouver leur voie. Aujourd'hui, ce sont plus de 840 métiers qui comptent à travers toute cette communauté. Ça leur permet d'échanger. Chacun donne son point de vue, sa vision des formations, de ces métiers qui les intéressent pour pouvoir, là aussi, mieux se projeter et ne pas se faire un film sur un job rêvé qui, finalement, n'est pas celui qui leur convient.
Oui, puis il y a aussi des journées nationales de jeunes où ils ne vont pas pouvoir aller à la rencontre des entreprises. Ça c'est un moment important.
C'est un moment important. Ça se passe du 30 mars au 3 avril 2020. C'est pour offrir une meilleure visibilité, encourager la prise de parole des 14-25 ans dans le débat public, parce qu'il faut les entendre, ces jeunes, savoir ce qu'ils ont à nous dire.
De quoi avez-vous besoin ? C'est ma dernière question. Allez, 10 secondes chacune. Laila, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous manque pour aller plus loin ?
Pour aller plus loin, il nous faut de la finance.
Donc, combien ?
On cherche 500 kilos euros pour 2020. Et puis, de la visibilité. Et oui. Aujourd'hui, on existe. L'appli, elle est complète, elle est développée. Mais on a besoin de consolider l'équipe. Donc, voilà.
Même question. Qu'est-ce qui manque
pour Génération Zébrée, d'abord de la visibilité, puisque le service fonctionne déjà. Donc, si vous cherchez ce que vous allez faire après le bac ou que vos enfants sont en train de se poser des questions, n'hésitez pas à aller sur le site internet.
Oui, c'est en ce moment un Parcoursup, donc c'est important.
Oui, tout à fait. Justement, pour préparer les vœux après à renseigner sur Parcoursup ou hors Parcoursup, c'est un bon moyen de s'y préparer. Et après, travailler avec d'autres branches professionnelles, justement, pour revaloriser des branches qui souffrent d'un manque de valorisation ou de visibilité aujourd'hui et davantage d'établissements supérieurs pour proposer toujours plus d'informations à nos utilisateurs.
Émilie ?
Nous, ce serait aussi des établissements d'enseignement supérieur. On en a 150 partenariats aujourd'hui pour élargir et toucher encore plus de jeunes. Et puis, si vous avez envie de partager la passion de votre métier avec des étudiants, n'hésitez pas à vous inscrire sur myjobglasses.com.
Merci à toutes les trois d'être venues parler orientation aujourd'hui avec nous sur Europe 1.
Et avant de découvrir l'entreprise qui va bien... Quelle entreprise qui va bien ? Qui est donc, Raphaël ?
Eh bien, écoutez, c'est un charbon végétal produit en France depuis 1860. Et c'est Bordé en Bourgogne qui le fait. Et effectivement, c'est l'entreprise qui va bien.
Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Et c'est le Raphaël de découvrir l'entreprise qui va bien.
Et cette entreprise, c'est le groupe Bordé. Figurez-vous que cette société produit du charbon végétal. Devinez depuis quand, Céline ?
Oh là là, depuis bien longtemps, j'imagine.
1860. Bonjour, Cyril Flores.
Bonjour, Raphaël.
Merci d'être avec nous. L'entreprise 1860, moi je n'en revenais pas quand j'ai vu la date. Alfred et Paul Berdet sont en Bourgogne et ils se lancent en fait dans la production de charbon artisanal.
Tout à fait. 1860, Alfred Berdet se lance dans la production de charbon de bois pour alimenter les forges
De la région.
De la région, tout à fait, au cœur de la Bourgogne.
Alors, ils ont un succès assez rapide, hein, on peut le dire, puisqu'ils remportent la médaille d'argent à l'exposition universelle pour la qualité de leurs produits.
Complètement.
Et puis, ils continuent leur bonhomme de chemin. Et quelques années plus tard, ils vont construire, 1951, la première usine.
Tout à fait. Premier four industriel de carbonisation pour la production de charbon de bois.
Donc, ça signifie qu'on passe de l'artisanal, pour le coup, à l'industriel.
Complètement.
Changement de décor.
Tout à fait. Production artisanale, production industrielle, qui ensuite, 1971, une révolution où la société produit en cogénération.
C'est
en cogénération, c'est production de l'énergie par les machines de l'usine.
Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On commence à chercher des idées nouvelles pour diversifier justement la gamme.
Tout à fait. On quitte le charbon combustible pour les hauts fourneaux pour ensuite aller vers le charbon de cuisson, le charbon domestique, le plaisir, le loisir, le charbon barbecue, également un petit peu le charbon restauration. Vers lesquels la société va continuer à partir de 1971.
Cinq générations de bordées se sont succédées. Et puis, vous arrivez, vous, en 2016, c'est ça?
2016, oui. Après avoir cédé mon entreprise.
Vous n'étiez pas du tout là-dedans?
Je n'étais pas du tout là-dedans.
Télésurveillance,
oui.
Et que se passe-t-il? Pourquoi est-ce que vous avez envie de vous tourner vers ce groupe bordé? Qu'est-ce qu'il a de particulier?
Alors,
qui vous intéresse?
J'étais séduit par ce groupe, séduit par son histoire, une histoire très ancienne, une très belle histoire, un président qui gérait avec passion. Et j'ai compris pourquoi cette passion, parce que c'est un matériau qualifié parfois d'or noir. Et c'est un matériau noble, très ancien, mais avec un vrai futur aujourd'hui.
Vous dites que c'est une pépite, finalement, qui
s'ignorait. C'est une pépite, voilà, une pépite qui s'ignorait. L'entreprise a travaillé très longtemps dans le domaine du charbon de cuisson, charbon restauration, barbecue, alors qu'avec le charbon, il y a tellement d'autres applications aujourd'hui, telles que le biochar, qui est un amendement de sol, qui est un engrais naturel, tels que le charbon actif avec lesquels aujourd'hui on peut dépolluer. Et c'est ce vers quoi on va tendre de plus en plus pour aller vers la dépollution. On va essayer d'aller dépolluer la planète à notre petit niveau.
Oui, alors quand même, hein, en 2017, vous lancez de grandes choses, des programmes de recherche, de développement pour commencer à activer votre charbon. Comment ça se passe en 2017? Vous tâtonnez? On vous ouvre les portes tout de suite avec ces nouveautés?
Ah, on tâtonne, oui, on tâtonne toujours, mais effectivement, il y a des programmes de recherche qui sont lancés pour, avec un traitement naturel pour pouvoir activer le charbon et pouvoir se lancer dans ces nouveaux marchés.
C'est-à-dire, quand vous dites activer le charbon, pour que les auditeurs nous comprennent bien?
Alors, activer le charbon, c'est un traitement physique qui permet de créer une multitude de trous dans la matière. Et tous ces trous, on séquestre les polluants. On peut séquestrer les pesticides qui vont rentrer dans le charbon, qui vont rentrer dans la matière, mais qui ne ressortiront pas.
Qui vont capturer, en fait.
Ça capture, ça, tout à fait. Ça capture, ça séquestre.
Marie, notre coach.
Je trouve que c'est une histoire vraiment formidable. Pour moi, c'est l'histoire de l'entrepreneuriat, parce que le charbon, au 19e siècle, c'est quand même la révolution industrielle, ouais, dans toute sa splendeur, mais également dans tout ce qui est les travers qu'elle va porter par la suite. Dans la transformation du 20e siècle, avec l'arrivée de nouvelles technologies et la survie d'une entreprise à tous ces chocs. Et aujourd'hui, vous avez réussi à en faire une revalorisation où le charbon, qui était vu à l'époque comme un polluant, aujourd'hui va même revaloriser une filière, va même réussir à dépolluer. C'est fantastique la manière dont cette entreprise a évolué en 150 ans.
Alors oui, vous avez raison. Alors il y a une petite différence entre le charbon minéral et le charbon végétal, le charbon de bois. Le charbon minéral qui est fossile, c'est celui-là dont vous parlez, alors que le charbon végétal, le charbon de bois, celui-ci est un matériau qui n'est pas fossile et qui est un matériau vert, éco-responsable, propre. Et c'est effectivement avec celui-là que l'on va dépolluer. Alors l'histoire.
Ça y est, c'est possible là.
Nous, on sort. Nous le dire. Tout à fait. On sort un communiqué de presse. On va sortir un communiqué aujourd'hui.
Bah, ça y est, vous venez de le faire en direct sur Europe 1.
En direct pour annoncer
exclusivité.
Que nous avons que nous lançons notre première gamme de charbon actif et que nous allons par la suite travailler activement sur le biochar pour les jardiniers et pour l'agriculture.
Donc, qu'on se comprenne bien, ce charbon, il va pouvoir être utilisé pour la pollution, pour les pesticides, pour les métaux lourds ?
Alors, le charbon actif, c'est pour la filtration de l'eau, la filtration de l'air, les filtres à charbon. C'est utilisé dans la nutrition animale. C'est utilisé également cosmétique. C'est utilisé pharmacie. Donc il y a énormément d'utilisation et la dépollution, tout à fait.
Votre usine, elle est toujours en Bourgogne ?
Elle est toujours au cœur de Bourgogne, complètement.
Petite heure de Dijon, c'est ça ?
C'est une petite heure au sud de Dijon, oui.
Je disais, c'est une entreprise qui va bien. Aujourd'hui, 3 millions de chiffre d'affaires.
3 millions de chiffre d'affaires.
Et quelle est la suite ?
Quelle est la suite ? Alors la suite, c'est nous avons annoncé ces derniers jours un rapprochement avec un confrère, avec une entreprise qui produit également du charbon...
Bois-Rousseau ?
Tout à fait, qui produit également du charbon végétal. Donc c'est une complémentarité, avec Bordet. La suite, c'est on va continuer à travailler pour produire de l'énergie verte de cuisson. Et la suite, c'est également continuer à essayer d'avoir un vrai engagement pour la planète, d'avoir une vraie raison, qui est un peu différent avec la télésurveillance dont vous parliez, une vraie raison d'être pour pouvoir, si on peut, à notre petit niveau, dépolluer, tout à fait.
En toute humilité. Bravo en tout cas pour ce que vous faites. Merci d'avoir été avec nous pour nous raconter l'histoire du groupe Bordet, c'est l'entreprise qui va bien. Merci à Marie Sermadiras qui était notre coach aujourd'hui. On est toujours ravis de vous recevoir, Marie. Elisabeth, Céline, rendez-vous demain midi sur Europe 1.